Virage Marseille avec Oco, une filtration fiable pour votre eau.
Sur tous les terrains de la vie, soyez protégés. Virage Marseille avec Mutuelle du Soleil. Santé, prévoyance, auto, habitation.
Oui, prêt, parce que je considère pas que l'équipe soit malade. Il y a des dynamiques parfois qui sont un petit peu plus négatives. C'est difficile pour moi de vivre ce qu'on vit en ce moment, parce que j'ai l'impression de ne pas pouvoir amener l'Olympique de Marseille là où il doit être.
Avec le coach aussi, on s'est rendu compte qu'il y avait des choses à faire durant l'entraînement pour essayer d'améliorer ça, pour résoudre ces difficultés.
Quand je revois l'action, il manque des choses, beaucoup de choses.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Virage Marseille. On a un programme encore chargé ce mardi soir avec Habib Bey. Dans une première partie, on se posera cette question simple. Est-ce qu'il a pris sa mission à l'Olympique de Marseille de la mauvaise des manières? On en parle avec nos invités ce soir. Christophe, habitué, supporter de l'OM, malgré tout, finalement, bref, contre vents et marées.
Au moins nous, comme on dit, les supporters, on est là jusqu'au bout. On a vu des supporters qui ont chanté encore au match. Donc ça... on peut féliciter là-dessus. Hein.
Et on est ravis d'accueillir Robin Piette, journaliste à BFM Marseille-Provence, d'avoir été avec nous. Merci d'être sur ce plateau à tous les deux. Je le disais en introduction, messieurs, est-ce que, on va poser cette question simple, Habib Bey n'a pas pris sa mission finalement du mauvais côté depuis son arrivée à l'Olympique de Marseille, lui que l'on attendait comme un pompier de service pour terminer cette saison dans les clous. Est-ce que finalement, il n'a pas voulu nous montrer trop de choses depuis qu'il est arrivé à l'Olympique de Marseille?
Après, déjà, il faut quand même dire qu'il a pris cette mission, il aurait pu la refuser. Hein. Venir aujourd'hui à l'Olympique de Marseille dans la situation actuelle, c'était vraiment pas facile. Donc ça, il faut quand même lui mettre à crédit ça. Moi, je voudrais quand même le dire parce que je vois beaucoup de monde tomber sur lui. Je pense quand même qu'il aurait pu venir à un autre moment plus tranquille. Donc,
oui, mais est-ce que le poste aurait été pour lui à un autre moment?
Oui, c'est ça la question. Ça, c'est vrai. Mais malgré tout, je pense que c'est pas facile pour lui d'arriver comme ça. Maintenant, il a essayé au départ de faire du football classique, du 4-2-3-1, du 4-3-3. Je l'ai vu quand même essayer pas mal de choses avec un Gouiri en 10. J'ai vu quand même tenter des choses simples. Verticalité, bloc équipe compacte. Et au final, on se rend compte que ça n'a pas marché. Donc, je peux comprendre qu'en tant que coach, il se dit, bon, hein, il me reste quoi comme solution? Peut-être revenir à moi, ce que j'ai eu l'habitude de faire au Red Star, à Rennes, avec ce système à 3. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça commence à être compliqué. Mais aujourd'hui, est-ce que l'Olympique de Marseille perd à cause de tactique, de choix? Je ne sais pas. Je vois quand même des joueurs dans la difficulté. Où je en veux un peu, c'est... on en reparlera dans la deuxième partie, mais comment tu peux te passer d'un Greenwood alors que tu joues quand même des matchs décisifs? Qui se passerait d'un Greenwood aujourd'hui? Donc ça, on en reparlera. Malgré tout, il ne s'est pas servi des erreurs. Moi, j'ai regardé Abdelli à chaque fois qu'il rentre. Ça a commencé avec deux herbies face au Paris Saint-Germain à chaque fois. Abdelli rentrait, on se prenait 2-3 buts. Donc c'est des choix. Est-ce qu'il l'a fait parce que les joueurs étaient blessés? Si c'est des choix, par contre, assez compliqué. Mais je suis d'accord avec toi. Pour moi, il est en train de se compliquer trop la tâche. Reste dans la simplicité. Parce qu'aujourd'hui, il faut finir la fin de saison. On a déjà des joueurs dans la tête où ça ne va pas. On a un environnement autour de l'équipe qui est compliqué, autour du club qui est compliqué. Donc, je pense que là, il faut mettre les joueurs dans les meilleures dispositions. Simplicité. Ça, c'est important.
C'est ça, la simplicité, finalement, c'est ce qu'il n'a pas fait depuis qu'il est arrivé à l'Olympique de Marseille.
Habib Bey, je pense que, comme Christophe d'ailleurs, c'était le rêve de sa vie de venir à Marseille. Il est venu à un moment difficile, donc pour ça, je pense qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui auraient préféré attendre que le moment soit bon. Habib Bey, pour moi, il a fait une énorme erreur. C'est lors de sa première conférence de presse, il dit « les joueurs sont pas malades, tout va bien ». En gros, c'est juste, on avait l'impression lors de sa première conférence de presse que c'est juste l'OM avait enchaîné 2-3 mauvais résultats, mais que dans le fond, tout allait bien et qu'on allait de nous-mêmes se redresser, aller en Ligue des Champions... aller plus loin en Coupe de France, il ne s'est pas rendu compte à quel point, je pense, le groupe avait pris énormément de claques. On peut le voir sur les fils de ce qui s'est passé cette saison. Ce qu'il arrive à l'OM en cette fin de saison, ça paraît logique. Quand je prends autant de claques dans la tête, les joueurs, ils ne savent plus où ils habitent. Le trophée des champions, on pensait qu'on avait enfin gagné un trophée, tu perds à la dernière minute. Le match contre Bruges, la touche contre Toulouse, il y a énormément d'exemples. Je pense que Bey, ça a été sa première erreur fondamentale, c'est de ne pas comprendre à quel point les joueurs de l'OM étaient affectés. Donc, hier, on avait Fabien Laurenti sur ce plateau qui disait, quand une équipe va mal, il faut faire simple. Et peut-être que le dernier match, c'est la symbolique de ce qu'il a voulu faire. Pas simple. Le schéma tactique est très compliqué. Brice Diadjedje, dimanche, nous le disait, c'est ce qu'on faisait avec Marcelo Bielsa, mais on l'avait travaillé toute la pré-saison. C'est un système tactique qui demande à ce que tous les joueurs sachent exactement où se positionner à la perte du ballon, qui allait presser. Et là, on a joué avec de l'envie au stade. J'étais au stade, ça s'est vu, hein. Comparé au match de Lorient, les joueurs sont allés presser. Mais il y avait quand même un flou, et peut-être que c'est ce qui aura manqué à Habib Bey, c'est plus de simplicité dans sa communication et peut-être dans ses choix. Et aussi, effectivement, on va en parler plus tard, mais l'accrochage avec Abdelli, quelque part, c'est lui qui le fait rentrer, Abdelli. Abdelli, il t'a montré depuis 9 matchs. On ne sait pas, j'aime pas tirer trop tôt sur un joueur. Peut-être qu'Abdelli, dans le futur, sera un bon joueur de l'Olympique de Marseille. Moi, j'en doute.
Mais
cette saison, il n'y est pas dans le coup. C'est toi qui le fais rentrer. C'est toi qui es fautif. Quelque part, quand il rentre et qu'il a ce comportement face à Lorient.
Après, dans sa communication, il est obligé d'être positif en arrivant. Tu vois, quand t'arrives, un coach, il reprend une équipe malade. Si tu dis oui, on est malade, on va essayer de voir qu'est-ce qu'il faut gommer. Il peut pas. Il faut être positif quand
son
tu arrives.
Son expression, ça a été. Pape Diouf disait quand il était président de l'Olympique de Marseille, quand ça brûle, il faut laisser le feu brûler tout seul entre guillemets. Je sais plus exactement l'expression. Employé, mais c'était plus ou moins ça qu'il disait à Habib Bey. Finalement, le feu, j'ai l'impression qu'il est toujours du côté de la commanderie, du côté du vélodrome. Là.
Après, on n'est pas à l'intérieur. Il faut voir aussi comment il s'est présenté face aux joueurs. Est-ce qu'il est arrivé, il a expliqué que bon, il y avait eu des choses qui ont été bien faites et d'autres moins, mais que lui arrivait et que ça allait peut-être changer, qu'il allait apporter d'autres choses, etc. Il faut voir aussi comment il s'est présenté aux joueurs. J'ai quand même l'impression que voilà, on dit le manque d'expérience, mais il a des idées. On le voit, quand il parle football, ça énerve beaucoup de monde, parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'il fait du Guardiola. Oui. Pas. Bon. Mais par contre, au niveau des joueurs, ça peut être compliqué, parce que peut-être il refait le football avec eux, peut-être qu'il veut leur expliquer le football, mais il ne faut pas oublier, il manque d'expérience. Et je pense que peut-être dans ce qu'il propose avec les joueurs, dans la communication, peut-être qu'il y a quand même du travail et qu'il n'est pas prêt pour l'OM actuellement dans ce périmètre-là.
Alors, avant de te donner la parole, Robin, on regarde ce classement de l'Olympique de Marseille depuis l'arrivée d'Habib Bey. On a fait la moyenne des points. L'OM est 7e depuis l'arrivée d'Habib Bey en championnat. On va voir ce que ça donne sous Roberto De Zerbi. Quand il part, l'OM est 4e de cette Ligue 1. C'est finalement un constat peut-être d'échec pour Habib Bey, qui n'a pas réussi, qui ne réussit pas en tout cas pour l'instant à 3 journées de la fin, Robin, à être dans les objectifs fixés par la direction lorsqu'il arrive à l'OM.
Moi, quand je regarde ces deux classements qu'on a préparés cet après-midi, ce qui me choque le plus, c'est la différence de but. Sous Roberto De Zerbi, là, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui refont l'histoire en disant « Ah, si De Zerbi était resté sous Roberto De Zerbi, tu en as commenté des matchs, tu en as vu au stade, on a vu des sacrées purges. On a perdu contre des équipes très moyennes. Cette équipe avait quelque chose, c'est qu'elle marquait beaucoup de buts. On avait des problèmes défensifs, on pouvait prendre des buts à n'importe quel moment contre n'importe qui, mais on marquait beaucoup de buts. Là, on le voit, en 9 matchs, on est à moins 1, on a pris 18 buts, on en a marqué 16 sous Habib Bey. C'est ça le problème. J'ai l'impression que non seulement il n'a pas réparé, bon, il n'est pas seul fautif, hein, mais non seulement il n'a pas réparé les soucis de l'OM, la défense, le mental des joueurs, mais en plus, on a cassé quelque chose qui marchait plutôt bien. Et je pense que c'est principalement ce qui sera retenu contre lui après. Sans Habib Bey, on a plus ou moins acté qu'il finissait la saison et qu'il s'en allait. Mais dans le style de jeu, franchement, ça a été pénible ce dimanche. On ne savait pas comment marquer, quoi, jusqu'à ce que Greenwood rentre. Franchement, on a la balle, on est haut, mais il n'y a pas d'action.
D'accord, bah avec 4 à 5 joueurs à vocation milieu, pour moi, défensif, milieu central maximum. Au final, il y avait vraiment Aubameyang. Moi, ce que je regrette aussi, c'est ne pas avoir mis Emerson de côté. Ça, c'est un gros choix pour moi. Parce que, alors, Medina, j'ai vraiment du mal avec lui. Oui, c'est un joueur qui a la grinta, etc. Mais aujourd'hui, je pense que ce n'est pas ce qu'on a besoin. On a besoin de joueurs calmes, qui sont capables à un moment donné durant le match à calmer les mecs. Il faut psychologiquement, on a besoin vraiment de mecs d'expérience qui sont capables de prendre le groupe en main. Et aujourd'hui, entre Balerdi, entre Medina, je pense que c'est pas le moment de faire de l'argentin, de titiller Wahi, parce qu'au contraire, ils l'ont remis bien mis. Wahi avait qu'une envie, c'est de faire mal à l'OM. Ils l'ont tellement
comme
embêté tout le match.
3 fois sur 4 d'ailleurs, voilà. Avec ces joueurs-là.
Mais ça fait que ça durant le match. Et je sais pas, moi, ton objectif, c'est de ramener l'OM en Ligue des Champions. Laisse les joueurs adverses, occupe-toi de toi. Et je pense que là-dessus, ils vont un peu trop loin. Et je trouve qu'un Emerson, avec son expérience, alors oui, il avait raté son match face à Lyon, et depuis, derrière, j'ai pas compris. Quand tu as un latéral gauche comme ça, et ça te permet de repasser bien à 4, de jouer en 4-2-3-1 comme il faisait dès le départ, parce qu'au final, bon, le jeu, c'était pas terrible, ça on le sait, mais on gagnait des 1-0, ça marchait, bon. Et c'est le match contre Lille qui fait que ça bascule dans le mauvais sens, parce que ce match-là, quand tu commences, tu dis, ah ben, on bat Lille, là, c'est, ça y est, on repart. Et tu perds ce match-là, et derrière, j'ai eu l'impression qu'il s'est dit, ben, allez, ça marche pas, il faut tout rechanger. Et il a fait des choix, il s'appuyait sur des mecs comme Medina, qui pour moi, c'est peut-être pas le moment de s'appuyer sur des joueurs comme ça.
Allez, Robin, pour finir cette première partie de Virage Marseille, est-ce que finalement le costume, il n'est pas tout simplement trop grand pour lui, Robbie Bay à l'Olympique de Marseille?
C'est ce qu'a dit Christophe au début, c'est sûrement trop grand pour lui maintenant. Peut-être qu'Abi Bey dans le futur deviendra un excellent entraîneur. Peut-être que c'est une expérience qui va lui servir. Abi Bey, oui, c'est ce que tu disais, Julien. Moi, j'ai un peu peur pour lui d'une chose, c'est qu'il se tire en rise en tant qu'entraîneur. Tu en parlais, Christophe. On écoute Abi Bey en conférence de presse. C'est des beaux discours, c'est très bien. On a vu quand même vendredi dans la conférence de presse qu'on a diffusée sur BFM Marseille, il était très tendu. Donc déjà, le discours de « je viens vous expliquer le football » à « je passe tout de suite » à « je vous parle plus, je vous explique plus rien, je suis très tendu », ça va être problématique. Il y a un moment donné où dans des clubs de foot, je pense que ce qu'il fait comme discours de prendre une posture d'entraîneur, ça peut marcher autre part qu'ici. Ici, moi, j'ai eu peur dès les premières conférences de presse en me disant « le discours, il est beau, ça marche pas sur le terrain. Par contre, il va se faire démolir parce que les gens n'aiment pas ça, les gens n'aiment pas entendre. Surtout que ici, à Marseille, les conférences de presse sont très suivies. Dans un autre club, peut-être que le supporter brestois, il regarde moins Eric Roy en conférence de presse. Moi, j'ai peut-être que ça va le faire redescendre un peu. Et aussi, on en a parlé dans cette émission, il a eu une grosse difficulté avec son vestiaire à Rennes, avec les cadres à Rennes. Ça recoince aujourd'hui avec ses joueurs à Marseille. Il y a peut-être dans le rapport humain se dire que les joueurs d'aujourd'hui ne sont pas les joueurs avec lesquels il a joué quand il était jeune.
Et tu ajoutes à ça en plus les bons résultats de Rennes depuis qu'il est parti.
Et justement, il y a un joueur avec qui ça coince, c'est Mason Greenwood. On va en parler dans cette deuxième partie. On se posera cette question dans la seconde partie de Virage Marseille. Est-ce que le traitement de faveur accordé notamment à Mason Greenwood toute la saison est approprié pour l'Olympique de Marseille? À tout de suite. De retour sur le plateau de Virage Marseille, toujours avec Robin, toujours avec Christophe. Dans cette deuxième partie, on va parler de Mason Greenwood, le meilleur joueur de l'Olympique de Marseille. Mais est-ce que ça, c'est mauvais côté d'avoir un joueur aussi omniprésent et à qui on a donné quelques traitements de faveur depuis son arrivée à l'Olympique de Marseille? On va en parler avec vous, messieurs. Est-ce que déjà, Mason Greenwood doit être considéré comme une star, comme on peut le voir dans d'autres grands clubs, avec des joueurs qui sont au-dessus, même si on n'aime pas le dire, des autres joueurs dans l'effectif?
Tu le verras sur ces 2, 3, 4 saisons qui vont arriver. Je ne pense pas qu'on aura un joueur de cette trempe. Je pense qu'on va vraiment attendre longtemps pour trouver ce genre de joueur. Moi, pour moi, c'est... Après, on le sait, ces joueurs-là, c'est des joueurs depuis qu'ils sont jeunes, ils sont mis en avant. Au centre de formation, il était considéré comme une des plus grandes pépites, en tout cas de Manchester United. Donc, ce n'est pas évident. Donc, du coup, ils n'ont pas eu vraiment une éducation comme nous, dans la vie normale, on aurait pu avoir, avec des parents qui nous apprennent la vie, l'éducation. C'est des joueurs qui sont chouchoutés depuis leur enfance parce qu'on sait qu'ils ont un talent inné. Et ça, c'est le gros problème souvent des centres de formation. C'est vrai qu'on fait tout pour les joueurs, mais nous, avec nos enfants, on a changé, on est tous derrière nos enfants. Donc, c'est des petites pépites qui vont devoir prendre de l'expérience. Donc, nous, on a la chance d'avoir Greenwood, mais on l'a aussi à un âge où il est encore très jeune. où il doit encore apprendre ce que c'est se faire mal, etc. Mais aujourd'hui, pour moi, quand tu es un joueur de cette trempe-là, tu sais que tu vas l'avoir 2 ans, mets-le dans les meilleures conditions, donne-lui tout. De toute façon, il doit
être chouchouté. Quitte à se mettre le vestiaire à dos, finalement, parce que c'est ce qui se passe là. Quand ça va bien, finalement, c'est pas très dérangeant. Mais quand ça va mal, les coéquipiers se disent « Ah, ouais, il a encore un traitement de faveur, il peut avoir des séances moins dures, il peut arriver un petit peu plus en retard. On lui dira rien à l'entraînement. » Et finalement, ça peut porter préjudice à tout l'effectif de l'OM de Marseille.
Peut-être, mais aujourd'hui, dans ce vestiaire, qui est capable de sortir l'OM de cette mauvaise passe? Il n'y a que lui. Aujourd'hui, tu le vois, quand tu le mets pas, il n'y a pas de fond de jeu offensif. Aujourd'hui, tu as un Guiri qui, pour moi, est un joueur qui est capable, niveau techniquement, d'apporter des choses. Il est moins bien, il est blessé. Donc aujourd'hui, qui devant, à part lui, peut nous sortir de comme tu dis, avec De Zerbi, on marquait plein de buts. Aujourd'hui, on ne le fait plus. Et il n'y a plus Greenwood. On voit Alors, je pense que le départ de Zerbi, qui était très proche de son papa, il avait souvent téléphone. Je pense que le départ de Zerbi, par contre, nous a fait perdre le Mason Greenwood.
Robin, pour toi, l'OM a eu raison de starifier Mason Greenwood?
De toute façon, la décision n'appartient pas au club. Quand tu as un joueur tellement important, un joueur qui marque des buts, de fait, le joueur devient lui-même le joueur le plus important de l'effectif. Moi, je suis d'accord avec toi, Greenwood, il suffit d'aller au stade pour se rendre compte à quel point il a un niveau différent des autres. Il contrôle le ballon, ça reste dans le pied. Il fait une transversale, elle va exactement où il veut. Franchement, c'est un joueur qui est fantastique. Par contre, Mason Greenwood, il a eu une grosse progression entre l'an dernier et cette année. Sur le début de saison, il fait des replis défensifs, mais il a quelque chose, c'est que quand il ne veut pas, il ne veut pas. Et ça, et franchement, je pense que c'est ce qui énerve ses coéquipiers, c'est le côté, nous, ça ne va pas, on fait des replis défensifs, on souffre. Lui, quand le match devient dur, il baisse la tête. Il baisse la tête et il aide plus. Moi, j'ai le match à Lorient. Franchement, j'ai eu cette impression. Je ne sais pas toi ton impression. J'ai l'impression qu'au bout d'une demi-heure, Mason Greenwood, il s'est dit, ils sont trop mauvais, j'arrête. Et il s'est dit, mais en tant que téléspectateur, ça donnait vraiment cette impression qu'il s'est dit, mes coéquipiers ne sont pas assez bons pour jouer avec moi, j'arrête. J'ai essayé. J'ai essayé de jouer tout seul. J'y arrive pas. Je passe à autre chose. Et je pense que c'est un peu le problème de mentalité. Mais bon, là, on en a parlé hier des leaders dans cette équipe. Mais à quel moment quelqu'un vient le voir sur le terrain en lui faisant une réflexion? Personne, parce que personne ne peut, n'est en capacité de venir voir Mason Greenwood en lui disant « Eh oh, fais un peu plus !»
Parce que techniquement, c'est pas assez élevé pour toi?
Et parce que techniquement, c'est très faible. Et deux, lui, il serait en droit de répondre « Attends, fais un contrôle, fais une frappe, mon pote, au lieu de venir me voir. » Mais Mason Greenwood, je pense que ce manque de caractère l'empêchera d'aller dans les plus hauts clubs, parce qu'il y a un moment où les gens qui ont réussi, les superstars qui ont son niveau de base, sont des gens qui en veulent et qui n'acceptent pas la défaite. Et on les voit, je vais prendre des exemples qui sont énormes, qui sont même au-dessus de son niveau, mais des Cristiano Ronaldo, des Messi, des joueurs de ce niveau-là, des Haaland, quand leur équipe perd, ils vont hurler sur les mecs, ils vont chercher le ballon, ils courent. Lui, il a ce flegme, ça fait partie de lui, mais effectivement, je peux comprendre que ça énerve, mais lui, en même temps, dans le vestiaire, qui peut lui parler? C'est un peu le problème de l'Olympique de Marseille.
Et comme tu dis, tu parles de Messi et Ronaldo, mais malgré tout, ces joueurs-là, alors oui, il est pas encore, il sera sûrement jamais au niveau de Cristiano et Messi, mais par contre, tu voyais dans ces clubs-là, tu avais même des stars qui faisaient les efforts pour ces joueurs-là. Donc, moi, je suis coéquipier de Greenwood, je me dis, bon, c'est vrai que nous, on en donne plus, mais on sait que c'est le joueur qui est capable de nous sortir à tout moment un but venu de nulle part et qui peut nous sortir, comme on dit, de la M. Hein. Donc, là, ce qu'il faut, c'est OK, on va se donner. Et encore, j'ai vu contre quand il est rentré contre donc le dernier match
contre Nice,
je l'ai vu faire un retour à un moment donné, récupérer une balle. Donc, j'ai pas l'impression qu'il a lâché. Mais comme tu dis, là où je suis d'accord avec toi, je pense qu'il se dit vivement que c'est fini cette saison. Je suis où? Vu le contexte, les supporters qu'ils insultent, tout ce qui se passe autour, je pense qu'il se dit oh là là, je suis où? Vivement que ça se termine.
Allez, on va écouter Eric Dimeco, à qui on a posé la question aussi. Est-ce que Mason Greenwood doit être considéré différemment dans cette équipe de l'Olympique de Marseille? On va entendre l'ancien champion d'Europe, pardon, 1993, et on en parle juste après.
Vu que ton mec, c'est ton fonds de commerce, quand il te met le bordel, un joueur comme ça, avec le talent qu'il a et la valeur qu'il a, Tu peux pas le, tu es obligé de le faire jouer, c'est-à-dire que parce que cette mentalité-là ou ce qu'il a montré là, je crois que c'est depuis le début qu'il y a des soucis avec lui, hein, d'après ce que j'ai compris.
Oui, ça fait plusieurs mois. Mais là, ça ressemble.
Voilà, il est dilettante, il doit arriver un peu en retard sur le terrain. Il est là pour se montrer, il s'en saucissonne de si ça gagne ou si ça perd. Tu es dépendant de ces joueurs-là et donc tu leur passes tout. Donc plus tu leur passes, plus ils pensent que c'est la fête. Sauf que quand tu es en difficulté, où il faut que les mecs rentrent un peu dans leur tu es coach, tu travailles sur la discipline en disant les gars, on est sérieux. Et l'autre, il arrive en retard, il s'en fout, il envoie son avocat pour dire qu'il est blessé.
Oui, d'ailleurs, c'est l'une des nouvelles étapes de ce brouillage entre Greenwood et le club. C'est, on apprend ces informations que maintenant, quand il est blessé ou qu'il arrive en retard, hop, directement l'aide de son avocat pour prévenir le club. Là aussi, il y a une histoire qui va peut-être mal se finir avec Mason Greenwood finalement à l'Olympique de Marseille. Si l'OM n'arrive pas dans les objectifs et si il finit complètement fâché avec le club en lui-même, même si les supporters pour l'instant ne lui en tiennent pas rigueur.
Bah, on l'a vu, tous les joueurs ont été sifflés dimanche, sauf lui. À sa rentrée, tout le monde a crié. Donc je pense pas. Il a tellement apporté à l'Olympique de Marseille. Alors c'est sûr qu'il restera pas dans l'histoire parce qu'au final on n'a rien gagné.
Par contre, j'ai une question pour toi, Christophe. Tiens, supporter assidu, tu vas au stade, tu fais les déplacements. Mason Greenwood, je me suis fait la réflexion aussi. C'est tout le temps le plus applaudi au stade. Tu as pas, en tant que supporter, l'impression qu'il vous rend pas trop cet amour? Que il a ce côté un peu distant. Moi, je n'ai pas de souvenir de Mason Greenwood marquer et aller vers le virage en folie, communier à la fin d'un match, parce qu'on a, malgré cette saison horrible qu'on fait, on a gagné des gros matchs cette saison. On a gagné Monaco, on a gagné Lyon, on a gagné Paris à la maison. J'ai pas le souvenir d'une image, en deux ans à Marseille, j'ai pas le souvenir d'une image de Mason Greenwood communiant avec les supporters ou rendant un amour qu'on lui donne. Alors, il le rend, on voit les stats derrière toi, par ses stats, parce qu'il met des buts, parce que c'est pour la deuxième saison d'affilée, il va finir meilleur buteur de l'OM. Mais ça fera partie aussi de son histoire avec l'OM. Ce côté, je suis là, un peu mais détaché. Je suis pas là. Ouais, je suis là sur le carré vert. Mais dès que je sors du carré vert, je disparais.
Ouais, mais ça, c'est pas depuis quelques mois. Dès son arrivée, il a été comme ça. C'est sa personnalité. Il a une autre culture que nous. Il faut l'intégrer. C'est vrai que nous, en France, bon, peut-être, on aime bien les mecs, un peu extravagants. Lui, il est comme ça. Et moi, dès le départ, j'ai vu que c'était le mec un peu nonchalant, qui était un peu dans son monde, réservé. Mais on ne connaît pas sa vie, on ne connaît pas... avec tout ce qu'il a connu, je pense aussi que quand il est arrivé, il s'est dit aussi, bon, je dois me faire petit aussi. Il ne faut pas oublier toutes les histoires à son arrivée. Donc je pense que ça, il faut quand même l'intégrer. Je pense que quand on l'a recruté, on lui a dit attention, fais attention à ce que tu dis aux journalistes, fais attention à ton image, fais attention. Donc je pense aussi qu'il faut l'intégrer, ça, tu vois. Mais j'ai pas vu un Greenwood qui a changé de sa façon d'être avec les supporters, il a toujours été comme ça. Donc c'est pour ça que moi je peux pas lui en vouloir.
C'est pas un peu frustrant quand même de se dire on donne autant d'amour pour un joueur qui peut être vraiment une idole à Marseille, hein, des attaquants comme ça, on n'en aura peut-être plus jamais du côté du club marseillais. Est-ce que on n'aurait pas aimé que ça soit par exemple comme Drogba ou comme Aubameyang lors de sa première année? Voilà, la star adore l'OM, vit pour aussi les supporters, pour les faire vibrer, et vous rend un petit peu l'amour que vous lui donnez.
Et tu sais, regarde Ibrahimovic au Paris Saint-Germain, c'était la grande star. Tu as vu tout ce qu'il disait sur le club. Des fois, il n'y allait même pas. Des fois, les Parisiens, avant qu'ils gagnent la Ligue des Champions, des fois, ils n'allaient même pas voir leurs supporters. Ils partaient. C'était comme ça. Donc, tu sais, aujourd'hui, le football... oui, nous, on aimerait bien voir le football à l'ancienne. Avant, on pouvait aller voir les joueurs tranquillement. On faisait le tour du stade. On faisait des photos facilement avec eux. Et encore, je trouve qu'à Marseille, on a quand même cette faculté de pouvoir les approcher assez facilement par rapport à certains clubs. Mais aujourd'hui, c'est le foot, c'est les jeunes d'aujourd'hui. Tu vas dans les centres de formation. Les joueurs à 13, 14, 15 ans sont déjà avec leur casque. Ils regardent même pas ils serrent même pas les mains aux parents. Ils sont déjà dans leur bulle. Malheureusement, c'est pas Greenwood. C'est les jeunes d'aujourd'hui, la société d'aujourd'hui. Aujourd'hui, dans les centres de formation qui, dès le départ, moi, je me rappelle, dans certains centres de formation que j'ai pu connaître dans le Nord, les grands directeurs sportifs, les présidents, obligeaient chaque joueur, quand ils arrivaient sur le terrain, à dire bonjour même aux gens autour du terrain. Et je ne suis pas sûr qu'à Marseille ou dans les grands clubs, ils le font. Et du coup, on voit des joueurs comme ça après. C'est aussi l'éducation, hein.
En tout cas, Mason Greenwood, il va falloir qu'il reparte de l'avant et remarque des buts si l'OM veut espérer se qualifier en Ligue des Champions, espérer au moins jouer l'Europe. Parce que je sais que Romain, sur ce plateau, est un peu pessimiste quant à la situation marseillaise. Allez, messieurs, on arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle que cette émission est disponible en podcast si vous voulez la réécouter à la maison. Merci beaucoup à Isman Stambouli à la réalisation de ce Virage Marseille ce soir. Vous restez avec nous sur BFM Marseille-Provence. On revient dans un instant avec le reste de l'actualité provençale. À tout de suite.
C'était Virage Marseille avec Coco, une filtration fiable pour votre eau.
Sur tous les terrains de la vie, soyez protégés. Virage Marseille avec Mutuelle du Soleil, santé, prévoyance, auto, habitation.